12h15. Le journal, Caroline Toussaint.
Bonjour. L'homme a laissé son empreinte sur la Lune il y a exactement 50 ans. Plutôt que de grimper dans une fusée, nous vous proposerons d'embarquer avec nous dans une capsule temporelle. Grâce à un petit voyage dans le temps, nous reviendrons au 21 juillet 1969. Après le passé, non pas le présent, mais le futur, plus de 200 personnes se sont retrouvées au Creux des Biches ce week-end pour jouer à un jeu de rôle grandeur nature. L'intrigue se déroulait en l'an 2300 dans un univers post-apocalyptique. Le Tour de France cycliste reste dans les Pyrénées. La 15e étape de la Grande Boucle partira de Limoux pour arriver à Foix-Pradalbis aujourd'hui. C'est un nouveau tracé propice pour les grimpeurs. L'après-midi sera ensoleillé avec des températures frôlant les 30 degrés en pleine et 24 sur les hauteurs. Et le soleil prendra ses quartiers pour la semaine. La canicule est annoncée dès mardi. 3h56 du matin, le 21 juillet 1969, le monde assistait avec stupéfaction au premier pas de l'homme sur la Lune, retransmis en direct à la télévision. Il y a 50 ans, Neil Armstrong devenait le premier être humain à marcher sur notre satellite lors de la mission Apollo 11. Il était suivi quelques minutes plus tard par son équipier Buzz Aldrin qui quittait à son tour le LEM, le module lunaire baptisé Eagle, l'aigle. Le troisième homme de l'équipage, Michael Collins, restait quant à lui en orbite lunaire à bord du module de commande Columbia. François Comte nous raconte cet événement hors du commun.
La conquête de la Lune démarre dans les années 50 déjà, sur fond de course à l'armement et à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis. Les Soviétiques partent avec une longueur d'avance avec la mise en orbite du premier satellite Sputnik 1 en octobre 1957, puis celle du premier homme dans l'espace, Youri Gagarin, en avril 1961. Un mois plus tard, le nouveau président américain John Kennedy fixe aux États-Unis devant le Congrès un objectif ambitieux et même un peu fou, poser un homme sur la Lune et le faire revenir sain et sauf sur Terre avant la fin de la décennie.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Peu à peu, la NASA, l'agence spatiale américaine, comble son retard avec les programmes Mercury et Gemini. Apollo lui permettra de décrocher la Lune. Le 13 juillet 1969, la mission Apollo 11, composée de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, démarre avec le décollage de la fusée géante Saturn V et ses 160 millions de chevaux.
2, 1, 0.
Le voyage vers la Lune dure 3 jours avant la séparation entre Columbia, piloté par Michael Collins, et le LEM, qui emmène Neil Armstrong et Buzz Aldrin vers la surface de notre satellite. À l'approche de la Lune, l'ordinateur annonce 2 alarmes successives, mais la mission se poursuit tout de même. Neil Armstrong dépasse de 6 km le site prévu pour l'alunissage sur la mer de la Tranquillité. Eagle parvient enfin à se poser, ce que Neil Armstrong résume en une phrase. Ici la base de la Tranquillité, l'aigle s'est posé. Après un moment de repos, la mission se poursuit avec le moment fatidique, la sortie du module lunaire. Le 21 juillet 1969, à 3h56 du matin, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité.
Man.
15 minutes plus tard, il est rejoint par Buzz Aldrin. Les astronautes plantent le drapeau américain, déploient des instruments scientifiques et ramassent des échantillons de roches lunaires. Ensuite, c'est le président américain Richard Nixon qui leur parle en direct du bureau ovale de la Maison Blanche.
Hello Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House.
La sortie sur la Lune dure environ 2h30. Les deux astronautes regagnent le LEM pour préparer le décollage d'Eagle qui doit rejoindre Columbia, resté en orbite lunaire. Neil Armstrong et Buzz Aldrin retrouvent ainsi Michael Collins à bord du module de commande. Les trois hommes entament ensuite leur retour vers la Terre. Le 24 juillet, dernière opération délicate, la rentrée dans l'atmosphère. Le centre de commande de Houston retient son souffle et lance plusieurs appels avant de retrouver enfin le contact radio, signe que l'équipage est sain et sauf. Ici Apollo 11, nous vous recevons clair et net.
Apollo 11, Houston, to Orion, standing by. Over.
Apollo 11, Apollo 11,
Le module Columbia plonge dans l'océan Pacifique et les trois astronautes sont récupérés à bord du porte-avions USS Hornet. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins resteront ensuite 21 jours en quarantaine avant d'être fêtés en héros. Ils viennent d'accomplir un des exploits les plus retentissants de l'histoire de l'humanité.
Deux ONG annoncent la reprise des sauvetages en mer Méditerranée. SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières devraient intervenir ensemble, notamment autour de la Libye. Le nouveau navire Océan Viking naviguera à la fin du mois. En 2019, au moins 426 personnes sont mortes en tentant la traversée de la Méditerranée. Plus de 1000 pompiers luttent contre des feux de forêt au Portugal. Les autorités comptent 8 blessés, dont un dans un état grave. Plus de 400 véhicules et une vingtaine d'avions et d'hélicoptères ont été déployés. L'armée portugaise a annoncé des renforts pour faciliter l'accès aux pompiers selon l'état-major. Des gourous, des réfugiés, des nazis et des brasseurs, le jeu de rôle Grandeur Nature Pluie Noire a réuni de drôles de personnages ce week-end au Creux des Biches. Ils étaient 216 joueurs à venir interpréter leurs personnages dans un univers post-apocalyptique où il fallait remplir des missions et réussir des quêtes. Le jeu a été imaginé pendant un an par la STIM, la Société des Transports des Imaginaires Mécaniques, qui réunit des bénévoles passionnés de jeux de rôle. Jérémy Béret, l'un des organisateurs du week-end, nous explique ce qu'il vit quand il entre dans un univers fictif comme celui de Pluie Noire.
Le jeu de rôle Grandeur Nature, ça permet vraiment de ressentir des vraies émotions, je trouve, parce que l'immersion se fait facilement. On a le décor, on a 250 participants qui sont tous costumés, donc évidemment, assez rapidement, si on est un peu ouvert d'esprit, on se prend facilement au jeu. En étant dans le personnage, on va ressentir des vraies émotions. Sous l'excitation d'un combat, on va vraiment avoir une dose d'adrénaline. Quand on est un personnage qui n'est pas du tout guerrier, qui n'a pas d'armes, dans la forêt, si on se fait attaquer par des monstres, on va partir en hurlant pour de vrai. On ne va pas devoir le surjouer. Ça va vraiment être les émotions du moment, en fait. Ça peut être des émotions de joie quand on réussit quelque chose qu'on voulait absolument faire. Si on perd un proche, puis qu'on était... On avait des interactions fortes avec un personnage. C'est possible qu'on soit triste pour de vrai. C'est tout ça aussi qui est très intéressant dans le jeu de rôle Grandeur Nature. Qu'on a peut-être moins quand on fait ça autour d'une table au final. Même si c'est tout aussi intéressant comme type de jeu.
Les joueurs se sont retrouvés vendredi soir et devraient maintenant revenir à la réalité. Des photos sont à retrouver sur notre site internet et ne manquez pas nos informations de 18h pour découvrir un reportage.
Sport.
Les SR de Lémont prennent le meilleur dans le derby amical de Première Ligue de football. Michel Léoni.
Oui, les joueurs de la capitale jurassienne ont gagné 2-1 contre le FC Basse-Cour hier soir à Glovelier. Le FCB a pourtant ouvert la marque grâce à sa nouvelle recrue, Steve Coelho. Les Delémontins ont répondu en deuxième mi-temps grâce à deux réussites sur pénalty. Le premier a été inscrit par Mohamed Camara et le second par Astor Kilesi. Cette rencontre sans enjeu faisait office de test pour les deux formations jurassiennes. La reprise du championnat de Première Ligue est programmée dans 2 semaines. Steve Guerda finit 2 fois dans les 10 à Aix-la-Chapelle. Le cavalier jurassien s'est classé 4e hier après-midi sur son cheval Maddox. Dans la soirée, il a terminé 9e sur Venard de Cerisy dans un autre concours, toujours dans la ville allemande. Et cet après-midi, la principale épreuve, le Grand Prix, débutera vers 15h15. Une jurassienne termine sur le toit helvétique de natation. Kalissa Griffiths du club de Delémont a remporté hier le titre national du 200 mètres papillon dans la catégorie des 13 ans et moins. Dans le bassin de Bâle, elle a devancé sa poursuivante d'un cheveu, soit d'à peine 1/10 seconde. Timi Abashinsky, forfait pour le tournoi de tennis de Palerme en Italie qui débute demain. Éliminé récemment au premier tour du Ladies Open à Lausanne, la vaudoise souffre d'une tendinite. Elle devrait revenir à la compétition fin août. Les Pyrénées sont toujours au menu du peloton. Les cyclistes du Tour de France s'apprêtent à vivre une nouvelle journée rythmée par les cols. Cette 15e étape entre Limoux et Foix-Prat d'Albi comporte 3 ascensions de première catégorie. Le dernier sommet fera office d'arrivée. Présentation de l'étape du jour avec notre confrère de RMC Sport, Arthur Perrault.
La montagne, ça vous gagne. Le peloton du Tour de France a fait de ce dicton son adage et cela risque de lui servir une nouvelle fois aujourd'hui pour cette 15e étape, longue de 185 km, un véritable parcours du combattant aux allures de yo-yo. À peine rentré dans l'Ariège, les coureurs devront avaler le col de Montségur, une ascension que la Grande Boucle n'avait plus effectuée depuis 2002. Cette année-là, Laurent Jalabert y faisait un incroyable numéro en solitaire avec le maillot à pois sur les épaules. Mais le toboggan au milieu des châteaux cathares ne s'arrête pas là. Avec un peu plus loin, le mur de Peyguières, une escalade qui avait réussi à Warren Barguil en 2017. Le Breton avait alors mis fin à une série de 12 années sans le moindre succès d'un Français un 14 juillet. Pour cela, il aura quand même fallu tromper la vigilance de Nairo Quintana, Michael Landa ou encore Alberto Contador. Bluffant problème. Le cauchemar ne s'arrête pas là. Comme dernier juge de paix, le Prat d'Albi se dressera face au dernier résistant en calvaire de près de 12 km à 6,9% de moyenne. Un amuse-gambette qui ne devrait pas laisser en reste les grimpeurs de cette 106e édition.
L'actualité en tout temps, c'est sur RJB et RFJ.ch. Passons à la météo avec le retour de belles éclaircies. Vous l'avez remarqué, le temps qui sera bien ensoleillé dans l'après-midi et dans les prochains jours. Et les températures qui sont estivales, 27 à 28 en plaine et 24 à 1000 mètres d'altitude. Pour lundi, des conditions estivales encore, avec quelques voiles d'altitude, sans grandes conséquences et quelques cumulus inoffensifs en montagne. Et puis alors, de mardi à jeudi, la canicule marquera son grand retour avec des maximales de 34 à 37 degrés en plaine et 30 à 1000 mètres. Peu ou pas de nuages sous un soleil de plomb. Et puis le week-end prochain, eh bien une possible baisse des températures.